Hile. Au fond des filets, le podcast.
Très heureux cette semaine à Au fond des filets d'accueillir le seul, l'unique coach de l'équipe championne à Patrice Bernier et ses amis, accessoirement premier entraîneur de l'histoire des Roses de Montréal en Super Ligue du Nord, Robert Rositoyou, comment ça va?
Super bien et toi?
Ça va très très bien. Comment t'as trouvé ton expérience de champion à Patrice Bernier et ses amis? Pas trop tough, gérer une gang de gars et de filles pas de tête qui veulent tout le temps jouer?
Je me retournais sur le banc et j'essayais de prendre tout le monde en même temps. Mais surtout ceux qui avaient quatre têtes de plus que moi. Mais non, j'ai adoré connaître des gens que je connaissais pas et participer pour cette belle cause. C'était magnifique.
Moi, j'ai été déçu parce qu'au retour, le lendemain, j'avais une émission à faire avec Frédéric Laure, au fond des filets, puis j'ai pas eu une grande sympathie de sa part quand je lui ai dit que je pensais m'être cassé des côtes. J'ai eu la confirmation une dizaine de jours plus tard, en fait hier, avant d'enregistrer cet entretien, que j'avais bel et bien deux côtes cassées. Je vais essayer d'aller me têter un peu de sympathie de sa part. Au moins, ça servait à quelque chose. On a été champion au final.
Oh, puis je m'en rappelle, tu t'es fait mal, mais après, je te regardais parce qu'on avait besoin de temps.
Non, on a continué. Mais il y avait encore une finale à jouer.
Tu es correct. Oui, tu sais, poker face, pas de signe de faiblesse.
Ouais, mais deux, trois jours plus tard, je te confirme que j'étais à l'urgence puis j'avais perdu la game de poker, pas à peu près. Écoute, on va commencer par le début, mais pas le début. Je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu as travaillé en assurance?
Ouais.
Si je t'avais dit il y a une dizaine d'années, quand tu travaillais en assurance, hey, tu vas te ramasser par être le premier coach de l'histoire de l'équipe professionnelle d'une ligue qui n'existe pas encore, qui va s'appeler les Roses de Montréal, tu m'aurais dit quoi?
Ben, ça dépend à quel moment, parce qu'au début, quand je travaillais, c'était un centre d'appel. Je travaillais dans un centre d'appel, puis je n'aimais pas trop ce que je faisais, je me cherchais encore. Au début, je t'aurais pas cru, mais vers la fin, quand j'ai quitté pour faire du foot à temps plein, gagner un gros 800$ la prochaine année, puis que mon père me regarde encore avec un air de « qu'est-ce que tu fais ?» Mais moi, je sentais quelque chose à ce moment-là, dès que j'ai retouché le terrain, mais là, en tant que coach, je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial et je voulais y aller au bout. Puis ben, je sens que c'est vraiment un métier qui est sans limite. Donc oui, j'espère que tout se passe bien, mais que ce soit maintenant chez les pros, mais même avant, je sens qu'il y a quelque chose au bout de cette histoire-là, puis je veux aller au bout.
Tu as arrêté de jouer vers 18 ans?
Ouais, à peu près.
Tu as commencé à coacher à 24?
Ouais.
D'habitude, il y a un gap qui est plus court ou plutôt un overlap entre les deux. Qu'est-ce qui t'a ramené dans le soccer?
Ça s'est fait vraiment par hasard. C'est là que moi, je suis quelqu'un, j'ai la foi, puis ça, c'est juste... C'était une de mes amies, Audrey, qui coachait à Sainte-Julie. Au Rafale de Sainte-Julie, puis elle m'a juste dit « j'ai besoin d'un peu d'aide, ça te tente-tu? »
Es-tu de Sainte-Julie?
Non, je suis Longueuil, Brossard, okay, sur la Rive-Sud.
Quand même dans le coin, pas trop loin.
Dans le coin, donc je me suis dit « ok, pourquoi pas, je vais y aller. » Puis quand j'ai été, j'ai vraiment frappé au mur, là, des jeunes filles justement de 17 ans. Je savais pas comment parler devant un groupe, je savais pas comment me prononcer, mais j'ai compris que c'est dur. Et ça, je pense que ça m'a attiré au début. J'aime ça quand c'est difficile, j'aime ça quand c'est challengeant. Puis là, j'ai tout de suite dit, oh, c'est bon, là, c'est ça que je veux faire. Puis la responsabilité aussi, de quand tu es coach, tu fais surtout ça pour les autres. Mm-hmm. Après ça, je voulais tout découvrir, les hommes, les femmes, les filles, les garçons, tout âge. Je voulais juste apprendre et ça m'a tellement amené mon esprit à un endroit que j'étais constamment en mode découverte, apprentissage, que le curieux en moi a dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire.
Tu sais, souvent, quand tu arrives à 18 ans plus, comme joueur ou comme joueuse, c'est là où tu commences à comprendre ce que le coach te demande. Pas que tu comprends rien avant, mais tu commences peut-être à comprendre à prendre des notes, à t'intéresser au coaching, à te dire, ben si jamais moi je passe pas professionnel, peut-être qu'il y a une avenue là-dedans, je vais tirer telle chose d'un adjoint, telle chose d'un ou d'une entraîneur-chef. Toi, t'as pas eu ça, peut-être que tu l'as eu plus tôt, mais si t'as arrêté net, drette sec à 18 ans, de quoi tu te rappelles à 24 ans où tu t'es dit « Oh, OK, c'est ça la job de coach. » Le plus gros rattrapage que tu avais à faire, c'était quoi?
C'était... Il y avait des choses que je savais faire. parce que j'ai pas joué au niveau, mais j'ai quand même joué, j'étais pas pire, pas assez bon pour faire l'équipe régionale de Wilfried Nancy
Sur la rive sud.
sur la rive sud. Il m'avait coupé, il avait raison, je sais pas s'il s'en rappelle, j'ai jamais dit d'ailleurs, mais
Tu n'en as jamais parlé?
j'avais jamais parlé de ça parce que j'ai pas les quelques fois que j'échange avec lui, j'ai pas eu la chance de lui parler de ça.
Est-ce qu'il se rappelait de toi?
Non, je pense
Non?
pas. Je pense pas. Non, je pense pas. J'avais des cheveux dans ce temps-là, donc
Oups,
c'est sûr qu'il
je te comprends, je te comprends.
Mais il y a des choses qu'on sait faire. Par exemple, jongler. Savoir jongler, c'est une chose. Enseigner à quelqu'un qui sait pas jongler comment jongler, c'est complètement différent.
Tout à fait.
Et le breakdown, excuse-moi l'anglicisme, mais le couper vraiment le geste
Étape
technique
par
et étape
étape.
par étape. Et ça, c'était. Fallait quasiment que je reprenne à zéro. Ok, je sais comment jongler, mais je sais pas comment enseigner à quelqu'un de jongler. Donc par où on commence? Et c'est vraiment les petits qui m'ont aidé, que ce soit les U8 à la pré-académie, et U6 le samedi matin à Sainte-Julie, où je voulais leur enseigner le plus possible, mais en fait tout ce qu'ils voulaient c'est s'amuser, mais quand même leur enseigner au moins défendre leur but, au moins comprendre la direction. Et c'était fallait vraiment partir simple. Et puis après, c'était m'entourer de mentors. Pour moi, c'était ça la clé. C'est d'avoir des mentors. C'est à chaque jour, à chaque semaine, je cherchais quelqu'un qui pouvait m'apporter quelque chose et le suivre.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho, c'est drôle, on parlait de lui il y a un instant, Wilfried Nancy. Quand Wilfried est venu pendant les fêtes, il y a une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est quand il m'a dit, avant de présenter des nouveaux concepts ou des nouvelles idées à mes joueurs, je m'assure que mon garçon, son garçon qui a 7, peut-être 8 ans maintenant, est capable de les comprendre. Parce que ça veut dire que, tu sais, je l'ai réduit à son essence même, puis c'est la plus grande clarté que je peux donner à quelque part, coacher des jeunes. Toi, tu les as coachés de quel âge à la pré-académie?
J'ai fait un peu tout, j'ai fait des U8, j'ai fait des U10, après quand j'étais responsable dans un peu toutes les catégories, donc on va dire U8 à U12.
On s'entend que tu n'es pas en train d'expliquer les détails d'un 3-5-2 avec un triangle. Tu n'es pas là-dedans, là. Tu es dans ce qu'il y a
Non,
de plus
zéro,
pur
exactement.
dans
Comment
tes.
jouer un 2 contre
Ouais, déjà là, à 8 ans, déjà, jouer un 2
Non,
contre
pas à
un.
8 ans, mais ouais, peut-être plus à 12.
Je me souviens, je vais taire les gens impliqués dans ça. C'était d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi Wilfried vient de s'inviter dans cette conversation-là. Je faisais une licence B avec Wilfried. Puis il y a quelqu'un à Laval, à Bois-de-Boulogne d'ailleurs, qui est votre nouveau chez vous. Puis il y a quelqu'un qui nous expliquait, on travaillait l'overlap. Puis c'était dans une licence B provinciale, nationale, je ne me souviens plus trop. Puis il y a quelqu'un qui nous avait dit, tu sais, l'overlap, ça, vous pouvez le faire avec des enfants de 8, de 9 ans. Puis à l'époque, moi, je coachais des U8, des U9, puis j'avais des U9 plutôt. Puis j'avais une équipe pas pire, puis je me disais, OK, mais toi, tu sais pas quel genre de joueur on a, là. Puis c'est pas un manque de respect, j'avais une bonne équipe, mais commencer à travailler des overlaps à 9 ans. Ouais, on va commencer par passer, contrôler un ballon, puis ça va être correct.
100%.
Je te parlais du début qui n'était pas le début. On va commencer par le début qui l'est vraiment. Avant tes 12 ans, ça a quand même beaucoup bougé dans ta vie. T'es né en Roumanie, t'es né à Bucarest même?
Non, dans le nord du pays, à côté de la frontière de l'Hongrie.
Étais-tu à Bucarest après, avant de venir, ou
À
t'es...
3 ans, je suis arrivé à Bucarest et c'est là que j'ai grandi jusqu'à 11 avant d'arriver ici.
Avec tes grands-parents qui criaient de quel étage en haut?
Ouais, c'était le quatrième, mais ça faisait quand même haut. Oui, mes grands-parents
Quand t'as
m'a.
7 ans, le quatrième y est haut.
Ouais, c'est ça. Exactement. Mon père travaillait beaucoup, ma mère, je la voyais une fois ou 2 semaines. Et ouais, c'était mes grands-parents qui m'ont élevé. Donc, c'était des beaux moments.
Le contexte familial fait ensuite que tu t'en viens ici avec ton père
Et ma belle-mère, et
à l'âge de 11 ans. Tu parles pas français, tu parles pas anglais. Pour le meilleur, et je présume aussi pour le pire, là, il y a probablement des effets sur les deux côtés de cette médaille-là. Comment ça te forge, toi, Robert Rostoyou?
L'adaptabilité, ça me permet d'arriver quand on ne sait pas. Je pense qu'il y a deux façons de. Quand il y a un changement ou quand il y a quelque chose c'est soit on est dans une cage, puis un peu comme un animal dans le zoo, on est dans, ou Pont-de-Libert dans la jungle, puis moi j'étais dans la jungle, là, je comprenais absolument rien, on parlait, j'avais aucune idée de ce qui se passait autour de moi.
T'as-tu des
Et
classes d'accueil? T'arrives à quel temps de l'année?
oui, classe d'accueil, mais même la classe d'accueil, c'est avec d'autres mondes qui parlent d'autres langues, puis le roumain, il n'y avait pas de roumain dans cette classe-là. Donc,
Du swahili, du roumain, puis à quelque part, tout le monde essaie de
c'est
parler
ça, c'est
français.
encore plus dur. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'était le foot. C'est après 2 semaines, m'inscrire dans un premier club, c'était au club de Longueuil. Dans un premier club organisé, j'avais jamais connu ça, avoir des coéquipiers, jouer
T'avais
avec
juste
un
joué dans la rue
coach.
avant
Ouais,
ça?
c'était que la rue. J'avais joué un petit peu au Dynamo de Bucarest, mais c'était pas structuré vraiment comme c'est
C'est pas grave,
ici.
avoue, tu le mets dans le CV pareil,
Dans mon CV de joueur,
Ouais,
ouais.
c'est ça.
Ouais, ça m'a permis de m'adapter, d'apprendre la langue et d'utiliser un. Parce que ce qui est dur quand on arrive, c'est. Ce que je trouvais dur, c'est d'arriver à s'introduire dans la société, mais en même temps de garder une confiance. Mais on ne peut pas avoir de la confiance quand on ne parle pas la langue, par exemple. C'est hyper difficile et je
Ben, à
pense
cet
tout le
âge-là,
temps, mais c'est ça.
peut-être que quelqu'un de 22 ans pourrait avoir un petit peu plus de coffre, mais à 11 ans.
T'as raison, quand il y a au moins un diplôme dans la poche, il y a au moins quelque chose sur quoi s'attacher, mais moi, la seule chose que je savais faire, entre guillemets, l'enfant, moi, c'était jouer au foot. Et ça m'a permis de rester quand même confiant dans ce que je savais faire et de m'intégrer après, de me faire accepter dans un groupe, par exemple.
Ta relation avec la Roumanie, tu l'entretiens comment? Y retournes-tu souvent? Est-ce que y a des as-tu une communauté roumaine à Montréal ou est-ce que c'est comme une nouvelle ville puis ça c'est un chapitre plutôt passé?
Non, non, je suis encore très proche. C'est sûr que quand je suis arrivé ici, aujourd'hui, je peux le dire, là, je me sens québécois. Je pense comme un québécois. Je pense en français. Je garde quand même le roumain. On parle roumain à la maison. Encore beaucoup de nourriture aussi quand je vais chez mon père notamment, là. Mais ma mère est toujours en Roumanie, donc les premières années, j'y retournais souvent. Maintenant, un peu moins parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, j'ai aussi envie d'aller voyager un peu ailleurs. Mais la Roumanie, c'est vraiment un beau pays. Puis j'adore encore y aller. Ça fait un moment que j'ai pas été. Mais je suis l'équipe nationale. Je suis un peu ce qui se passe. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment une identité composée.
C'est intéressant ça parce que tu dis, je me sens québécois, je trouve toujours, tu sais, j'ai des cercles dans mon environnement qui sont québécois francophones, d'autres que je considère québécois anglophones, mais je trouve toujours ça fascinant d'entendre certains anglophones dire It was full of Québécois. Puis c'est des gens qui sont nés ici, là, de génération en génération. Puis d'entendre un Roumain qui débarque ici à 11 ans dire Moi, je suis Québécois, alors que des fois, on considère l'autre qui est né dans le même quartier. Il y a quelque chose de super intéressant d'un point de vue identitaire dans tout ça. Revenons à ton embauche avec les Roses de Montréal. Annie Larouche m'a dit qu'elle a eu des tests psychométriques à passer pour devenir présidente des Roses. As-tu eu des tests comme ça à passer? C'était quand même rigoureux comme processus. T'as fait quoi? Quatre passages à Montréal? T'étais à Vancouver pendant ce temps-là?
Ouais, j'en ai fait 3 ou 4, je pense que c'était 3, mais c'était des longues entrevues. Je me rappelle de celui que j'ai trouvé le plus enrichissant, le plus tough aussi, c'est dans le café de Nick DeSantis, derrière,
San
où
Simeon,
il y avait.
à côté des machines à sous.
Exactement, il y avait Marinette avec un calepin qui me regardait avec un air sérieux. Il y avait Nick avec son. Parce que je connaissais Nick avant, mais je le connaissais pas sous forme de
Tu
quelqu'un
le connais,
qui.
c'est du CF
Oui,
Montréal.
du
Tu avais
CF
eu des contacts
Montréal.
avec lui à
Oui,
ce moment-là?
exactement. Mais là, il était vraiment en mode
Business,
business.
là.
Et donc là, j'avais quand même deux personnalités fortes, deux personnes avec un parcours qui me posent des questions difficiles. Et
Comme quoi,
j'ai.
mettons?
Ben, par exemple, il y a une joueuse qui veut rien savoir de ce que tu dis.
OK, des situations, là.
Ouais, des vraies situations où, ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Des situations presque impossibles c'est vraiment difficile.
Impossible. En même temps, Nick a probablement une bonne histoire à te conter pour chacune de ces situations-là.
Impossible à savoir, tu sais,
Il n'y a pas
quoi.
de bonne
Tu peux pas te
réponse.
préparer à ça. Donc c'était le fun parce que quand je suis sorti de là, je me suis dit, là, ils me connaissent. Et après, s'ils veulent de moi, ils savent qu'est-ce que je leur amène. Puis je pense que quand on fait des moves comme ça, tu sais, j'étais bien à Vancouver, honnêtement, puis j'étais parti malgré que la famille est restée ici, puis que c'était tough.
Il venait de te prolonger ou il t'offrait une prolongation? Ça faisait un an que tu étais à Vancouver?
Ça faisait un an, je venais de renouveler avec eux,
Avec l'académie?
puis avec l'académie, puis je prenais un poste aussi de head coach. J'étais adjoint la première année, head coach la deuxième. Je commençais avec un nouveau groupe, puis j'avais fait plusieurs passages avec les pros aussi parce que c'était très inclusif et c'était pas que moi, on le faisait. Il y avait plusieurs coachs qui passaient avec les pros,
Ça,
mais
c'est le socialisme de Vanni Sarti.
exactement, c'est lui, il était à fond là-dedans. Puis il nous a, un jour, pour faire la parenthèse, là, il a embarqué dans un meeting, puis a dit: Bon, on est short staff chez les pros, on va pas recruter, on va vous faire tourner. Puis c'est la première fois que.
Donc, tourner dans le sens où, pour remplir une chaise, c'est un coach de
À
l'académie.
chaque semaine pendant toute la saison. Puis c'était semaine complète, de A à Z, tous les meetings, toutes les discussions,
Les
on
matchs aussi.
sortait les matchs. J'ai été sur un banc MLS à deux reprises au
Pour quel
BC
match?
Place. C'était LA Galaxy et
Ou quand même.
l'autre c'était.
Ça, c'était l'an dernier ou l'année d'avant? L'année
C'est
dernière?
l'année
Fait
dernière,
que le LA
ouais.
Galaxy est futur champion, là. C'était
Ouais,
pas la
exact.
moitié d'un match, là.
Ouais, c'était tout un match et c'était. Ouais, donc c'est la première fois que je vivais ça. Et 3 mois, j'étais là, je pense que ça faisait 3 mois que j'étais à Vancouver, puis je me retrouvais sur un banc MLS, je comprenais pas.
Il est comment, Vanni Sartini? Là, ça part dans tous les sens, puis c'est la raison pour laquelle j'adore ça au fond des filets. On a le temps, puis on n'est pas obligé de partir en ligne droite, puis bref, on n'est pas obligé de rester dans le U9 de passe avec le pied droit, passe avec le pied gauche. On peut parler d'overlap, puis revenir. Vanni Sartini, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, c'est un des gars, un de mes coachs préférés de tous les temps. Je couvre la MLS depuis 2012. On a évidemment un accès privilégié quand on fait la description de match parce qu'on a des appels avant les rencontres, mais dans la générosité, dans la candeur, l'honnêteté, écoute, c'était un gars carte sur table, mais ce qui me fascine, c'est que c'est un gars carte sur table avec des gars qu'il ne connaît pas. Je comprends que tu as quelques descripteurs qui sont là, je pense à Paul Dolan, entre autres, qui est à Vancouver, avec lesquels il y a une relation qui va au-delà de cet appel-là de 15-20 minutes, mais même avec nous. Moi, il ne me connaît pas, puis il répond à des questions avec une honnêteté extraordinaire, avec une passion. Tu sais, on parle souvent du mot passion, mais lui, c'est comme si c'était contagieux. Comment tu l'as vécu? As-tu un souvenir, une anecdote de lui?
Ah, j'en ai plein, mais c'est sûr, déjà, c'est quelqu'un de très drôle, très éduqué en même temps, donc il est capable de d'étirer, capable d'arriver. Quand il arrive dans la pièce, le centre de l'espace des coachs, il est commun à Vancouver, donc il n'y a pas l'équipe première, l'académie,
Tout est au même
tout le
endroit.
monde est ensemble avec des bureaux fermés pour Axel, le GM, pour Vanny, mais tout le monde est ensemble, donc on voit le staff arriver et quand Vanny arrive, tu sens pas à la pression du head coach, tu sens juste un être humain qui arrive et qui met la bonne ambiance, qui fait la bonne blague, qui se rappelle de ton nom, des petits détails. Mais pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est, je me rappelle une fois quand j'étais avec eux, on commençait très tôt, à 7 h, et il y
Tout le
avait,
monde est là à 7 heures.
non pas lui nécessairement, il y
OK.
avait un peu après, mais les analystes, par exemple, ils préparaient le meeting avec les joueurs, et il y avait plusieurs séquences qui sélectionnait pour montrer ensuite à Vanny. Et c'est vraiment sa mémoire visuelle et sa capacité après à en parler devant le groupe qui m'a vraiment bluffé parce qu'il est arrivé, il s'assoit, il voit les séquences, ok, il va en bas, il explique au groupe avec un niveau supérieur par rapport à ce qu'il venait de voir. Et là, j'étais pas prêt à ça. Là, j'ai dit ok, c'est bon. Et donc, c'est quelqu'un qui est très clair dans ce qu'il demande, très clair dans ses principes, très. La défense en zone et sur le terrain, pareil, il sait qu'est-ce qu'il veut, il donne des repères concrets et ça m'a beaucoup marqué chez lui.
C'est intéressant parce que je pense que j'en parlais avec Frédéric Laure. Dans les broadcast calls dont je te parle, il arrivait à nous dire, nous, ce qu'on veut, là, c'est trouver les 6 mètres d'espace entre le milieu défensif à gauche, puis le piston à gauche, parce que c'est là où, quand il arrive à s'endormir, puis le ballon est sur l'autre côté, quand tu mets le ballon dans cet espace-là, ça permet toujours une passe en. Puis je me disais, bon, OK, là, t'as fait une étude monstre ou t'as compris plus rapidement que tout le monde exactement ce qu'il fallait
Ouais.
observer. Bref, c'est là la richesse des échanges
Et je
avec des
pense
gars comme ça.
parce que je me suis retrouvé dans plusieurs aspects chez Vanny, évidemment chez Wilfried, ça j'en parlerai pas. Oui, Wilfried c'est mon idole et ça l'est depuis longtemps, avant même qu'il y ait du succès. Quand j'allais voir les entraînements, quand il avait pris l'équipe, j'allais voir beaucoup
En
d'entraînements et
2021.
ouais, il m'avait marqué. Mais quand tu mixes cette clarté tactique avec, et c'est difficile déjà d'avoir de la clarté, de mettre tout le monde, un staff, je l'ai vécu là, mettre tout le monde sur la même page, mais qu'après, tu as des joueurs ou des joueuses qui arrivent de différents endroits qui parlent pas le même langage, qui parlent même pas la même langue, et quand on mixe la clarté avec l'individualisation du travail, de l'approche, donc Vanny par exemple, et c'est quelque chose que j'adore faire aussi, c'est sur le terrain s'adresser à la bonne personne, à la bonne langue. Donc, il peut coacher quelqu'un en italien, en espagnol, au
Il en
bon
parle
moment.
plusieurs, hein?
Oui, il en parle
4-5, si
plusieurs.
je me trompe pas.
Exactement. Donc, ça, c'est très fort aussi parce que c'est une connexion directe avec le joueur en question et ou la joueuse. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est un gros travail. La dernière fois, j'ai dit à Charlotte, Charlotte, on est en build-up. Elle m'a regardé. J'ai dit, c'est bon, j'ai encore du travail à faire.
Ça me fait penser, j'ai fait un match avec Sébastien Letout, qui est une légende de l'Union de Philadelphie, quand je faisais des matchs pour Apple TV. On a fait quelques matchs de Coupe des Ligues ensemble, puis on est à Vancouver le premier vendredi soir. En fait, c'est le vendredi soir, deux choses de fou sont arrivées ce soir-là. Messi a marqué à son premier match avec Miami. Je me souviens, on faisait nos tests de son. On était au BC Place à Vancouver, justement. Puis on faisait les tests de son, puis on regarde l'écran. Messi rentre 94e marque. Puis ça, c'était aussi le match où il y a 38 pénaltys qui ont été tirés entre, c'était Léon, si je ne me trompe pas, et Vancouver. Bref, j'ai failli rater mon avion pour revenir. Ça pour dire que je parlais de blanchissage, puis à la mi-temps, Sébastien m'a dit, mais là, quand tu me parles de blanchissage, de quoi tu parles? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Je fais, OK, il y a peut-être pas juste les coachs qui ont besoin de s'ajuster comme ça. Tu parlais de ta présence, tu es au fond du café San Simeon, tu as Marinette, tonique. Quand tu faisais les allers-retours comme ça, tu étais toujours à Vancouver. Est-ce que, puis là, tu as le droit de pas répondre si tu veux pas répondre, mais est-ce que tu fais les allers-retours à tes frais? Parce que si c'est le cas, en fait, peu importe qui a cet engagement-là, ça démontre un engagement envers le processus.
Oui, ben c'est un peu des deux dans le sens que la première fois que je suis venu, j'étais déjà prévu venir. Vancouver, les Whitecaps ont été vraiment exceptionnels avec moi et ma famille, ils me permettaient de revenir assez souvent.
Tu les as mis au courant dès le départ?
Oui, bien sûr. Puis sincèrement, je n'étais pas parti là
Pour partir.
pour partir après un an. Donc, comme j'avais dit, j'étais bien là-bas. Mais quand l'opportunité est arrivée, j'ai été honnête avec eux dès le début et ça montre la culture qu'il y a dans le club parce qu'ils m'ont accompagné, ils m'ont dit vas-y. Puis donc j'étais déjà prévu arriver dans l'entre-saison. Ça, c'était une première entrevue que j'ai eue. Ensuite, la deuxième, ben non, pas la dernière, le club m'a appelé pour me dire qu'il voulait me revoir, mais je venais de repartir et j'avais été là assez longtemps pour. J'avais poussé pour dire, ben, tu sais, si je suis là, si vous avez besoin qu'on fasse, mais sans mettre la pression. Puis, comme la dernière étape, il y avait aussi les propriétaires. Et.
Puis tu fais quoi? Tu leur dis non, je reviens pas?
Ben non, mais au moment où il m'appelle, il me dit, OK, vous voulez que je revienne, mais là, je viens de retourner. Mais ça faisait vraiment quelques jours. C'est là qu'ils m'ont dit, non, non, mais on va te payer celui-là. J'ai dit, OK, c'est sérieux. C'est bon. J'arrive. Donc ça, c'était pas facile là, parce que
Mais
se préparer à une entrevue quand le vol de Vancouver, tu l'as vécu, si c'est le même que
ouais.
souvent les gens prennent, c'est celui à minuit.
Le red eye.
C'est ça.
Puis toi, t'avais
Donc,
l'entrevue le lendemain matin?
ben ça, c'est arrivé deux fois. Ça,
Ah
c'était
non,
tough.
ce...
C'était tough,
Non, t'es
mais
poqué, là. Pour les gens
le.
qui le savent pas, quand tu reviens
Oh
de
ouais,
nuit,
c'est
tu sais,
dur là.
puis c'est un truc, même quand tu reviens de nuit, puis c'est pas un red eye avec le décalage horaire, le CF Montréal le vit depuis le début de la saison. Revenir de Chicago, Chicago, il y a un petit décalage, là, mais revenir à 3-4 heures du matin, ou dans ce cas-là, arriver à 6-7 heures, puis t'as une entrevue à, je sais pas, 10 heures, 10 heures et demie, t'es mieux d'avoir pris tes notes avant de prendre ton vol.
Ouais. Oh ouais, puis t'arrives, puis j'étais vraiment. Au dernier entrevue, au dernier moment, je m'en rappelle, t'as Marinette qui m'ouvre la porte, puis la seule chose qu'elle me dit, c'est fais-nous vibrer. Ok. Mais là, ça m'a juste comme donné l'énergie. C'était le dernier souffle. Là, j'ai été moi-même, mais.
Est-ce que tu as interprété ça comme tu m'as convaincu, moi, directrice sportive, maintenant parce que c'est avec les propriétaires? C'était-tu ça?
Une partie de moi, oui, mais comme j'étais tellement concentré sur ma tâche, sur ce que je dois faire, j'ai aussi senti que les gens qui étaient dans la salle avaient besoin de vivre des émotions, de qu'on soit là pour donner des émotions aux autres. J'ai tout fait le lien de pourquoi j'étais à la bonne place dans cette entrevue et peu importe ce que ça allait donner après, là, à ce moment-là, je voulais la job. Je voulais revenir parce que là, avant même de rentrer et de serrer la main à Jean-François, le regarder, même si je le regarde, il est beaucoup plus grand que moi. Et pareil pour Isabelle, les sentir dans leur dans leurs yeux ce que ça représente, ce club, là, même avant ça, je sentais que, OK, je la veux.
Parce que je présume que, ben en fait, je vais te poser la question plutôt que de présumer. Est-ce que tu présentes de la même manière à Nick DeSantis, qui est un gars de ballon, à Marinette Pichon, qui est une femme de ballon, puis à des propriétaires investisseurs, Crevier, Chevalier, c'est pas la même relation avec le sport, avec le soccer que Pichon, DeSantis. Est-ce que tu changes ta manière de présenter? Est-ce que ton objectif est différent?
Ouais, je me suis ajusté. Je me suis ajusté. Je pense que c'est sûr qu'autour d'un café, en allant vraiment dans les détails, on peut être très, très. Ouais, aller dans les détails, tout simplement par rapport au foot, à la tactique, à la vision, les situations différentes qui peuvent arriver. Là, j'avais un temps, j'avais une liste de sujets qui était vraiment longue. Il fallait que je sois sharp,
Que toi t'as choisi ou
donc
que eux
eux
t'ont.
m'ont donné. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de les mettre par catégorie. En utilisant mes piliers, tout
T'as fait des
simplement.
bundles.
Ouais, mais par exemple, le pilier culturel, la culture de performance, pour moi, c'est un des piliers de mon identité de coach. Et ça, j'avais pris plusieurs questions, par exemple, comment choisir une capitaine. Et je l'avais mis là-dedans. Et là, dans certains sujets, je suis allé plus en détail. Dans certains, non. J'ai montré une vidéo de moi en train de coacher par rapport à ce que la Grinta représente, par exemple, et comment moi je la transmets, parce que c'est bien de le dire, mais il faut aussi la montrer. Donc, j'ai fait comme un genre de résumé, mais en même temps, OK, c'est les propriétaires, mais parfait, mais je vais être moi-même. Pour moi, c'était ça. J'ai envie d'être moi-même, et j'ai vraiment mon envie dans cette entrevue-là et dans cette aventure-là, c'est d'être moi-même et que les gens m'apprécient pour qui je suis et que après on s'ajuste puis on travaille ensemble, mais vraiment d'être moi-même, et ils m'ont permis dès le premier contact de me sentir moi-même là-dedans.
Fait qu'on choisit comment une capitaine?
Je pense que ça passe beaucoup par de l'observation au début, et même si on a un peu des idées, il y a de l'expérience, et je pense qu'il faut que ce soit naturel, il faut que elle ou elle au pluriel le veuille aussi. Donc au début, c'est de regarder qui naturellement se dégage, qui prend la parole, et de briefer aussi le staff en amont vers où on aimerait s'en aller. Donc pour nous, là, c'est d'abord un groupe de leadership pour ensuite choisir une ou deux capitaines
À travers ça.
à travers ça. Et je pense que il y a plusieurs critères. Il y a montrer par l'exemple. Évidemment, la prise de parole, faut quand même être à l'aise et vouloir le faire aussi. Est-ce que ça représente, qu'est-ce que ce club représente pour toi, et à quel point ça t'as envie de le porter? Je pense que ça fait partie des critères.
Choisir un coach ou une coach pour une équipe professionnelle féminine à Montréal, c'est jamais un problème. Jusqu'à temps que ce soit quelqu'un qui parle anglais ou que ce soit un gars. Comment tu l'as vécu? Parce que c'était quand même un dilemme. Je pense que Marinette
Ouais.
Pichon s'en est pas cachée. Éventuellement, puis je pense que tes propos vont même dans ce sens-là.
Ouais, bien sûr.
Éventuellement, dans un monde idéal, c'est une femme qui est à la tête des Roses. Je pense que tu t'es même offert pour, à quelque part, contribuer à ça dans le
Bien
futur. Toi,
sûr.
on verra où ton parcours t'amène, en espérant que ça passe par du succès avant tout ça avec les Roses. As-tu eu du pushback un peu? L'as-tu senti ça à quelque part? Parce que tu peux être déchiré de vivre quelque chose qui est extraordinaire dans ton parcours, mais des gens se disent, mais pourquoi c'est pas une femme?
Non, j'ai pas senti ça, que ce soit de l'interne ou de l'externe. J'ai senti quand même du support de la communauté foot à Montréal, que je connais quand même bien.
Les
Au
gens étaient contents pour
Québec, les
toi.
gens étaient
Moi,
contents.
ça a été unanime là, dans mon entourage. Ceux qui t'ont côtoyé, tout le monde était comme, ah, cool, on est content pour lui.
Non, mais j'ai été aussi très content de voir cette réaction-là. Et puis au club, ça a été clair. Même si le club avait mis de l'avant que si on trouve une femme, ben oui, on va privilégier ça,
Il
et
te
c'est
l'avait
tout à
dit,
fait
ça,
correct.
dans
Mais
le
il l'avait dit, je
processus?
pense, publiquement
OK.
dans un article. Moi, j'ai demandé la question quand j'étais dedans, puis c'était surtout ce qui avait été mis de l'avant, c'est la bonne personne avec les bonnes valeurs et les compétences. Et je suis d'accord avec ça, et j'ai apprécié ça. En même temps, je pense que au niveau féminin, malheureusement, il faut encore forcer un peu. Je donne un exemple parallèle. Est-ce que, puis je sais pas, tu sais, on a discussion de comptoir, mais
Ah ouais.
est-ce que Emma Hayes, quand elle est à Chelsea pendant peut-être 10 ans, et que Chelsea change de coach au niveau masculin à chaque année, ou parfois même deux fois par saison, si elle pose sa candidature, Est-ce qu'on la considère? Est-ce qu'on lui donne la job? Est-ce qu'on lui permet de coacher les gars? Est-ce qu'on y va que par compétence? Est-ce qu'on y va que par valeur? Ou est-ce qu'on se dit non, non, mais t'es une femme,
Ça fait peur.
ça fait peur. Donc je pense que là où on est en ce moment, je
Puis
pense que...
tu parles, juste pour les gens qui ne savent pas, là, Emma Hayes, tu parles d'une femme qui est top, top, top dans son domaine, là.
Exactement. Qui a du succès, qui... c'est historique ce qu'elle a fait à Chelsea. Et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie pour continuer. Et ce projet-là, il est à 100% derrière mettre les femmes de l'avant. Mais qu'à un moment donné, il faut aussi le forcer. Donc moi, être 10 ans dans ce poste-là, non. Honnêtement, non. Je veux contribuer à ce que ben, à ma place, un jour, ce soit au bon moment, de la bonne façon, parce qu'il faut aussi que les choses soient bien faites, je pense, que ce soit une femme. Et si je peux, moi, personnellement, aider à contribuer, aider à et vraiment mettre ça de l'avant, ultimement, peu importe quel rôle j'aurai, avec grand plaisir.
T'as dit tout à l'heure qu'à Sainte-Julie, t'as coaché des filles en premier.
Ouais.
On réécrit l'histoire. Mettons que tu coaches des gars. Penses-tu que tu coaches les roses aujourd'hui? Ta première expérience, si c'est avec des gars?
Je pense que oui, parce que pour moi, ça, c'était jamais. Tu sais, souvent, les gens ils me demandent de la différence entre coacher des gars, coacher des filles, les hommes, les femmes. Pour moi, c'est coacher l'être humain. Puis oui, il y en a des différences, mais je ne m'attarde
Il y
pas
a quand
sur
même
les.
des livres et des livres qui ont été
Il y en
écrits
a.
sur la différence entre un homme et une femme dans un couple, mettons. Puis je
Ouais.
ne veux pas rentrer dans un débat là, d'hétéronormativité, whatever, mais il y a quand même des subtilités. Ah, en fait, autant qu'il peut y en avoir dans un même groupe chez les hommes ou dans un même groupe chez les femmes, tu peux pas gérer tout le monde de la même manière non
Non,
plus.
puis il y a aussi des différences. Dire qu'il n'y en a pas, non, il y en a, mais est-ce que après on choisit de. Comment on choisit de faire avec ça? Est-ce qu'on s'attarde là-dessus? Moi, je préfère vraiment considérer l'être humain, puis coacher l'être humain, puis tout le monde est différent. Mais après ça, tu sais, où il y a des différences en termes, par exemple, physique, les muscles, ok, mais les
Ah ouais.
femmes peuvent presser, là.
Ben oui.
Elles peuvent presser haut, elles peuvent presser
Non,
haut
non, c'est clair.
longtemps, puis ça marche. Donc, après, c'est vraiment l'approche, puis. Puis donc je pense que j'étais tellement curieux dans les différents groupes d'âge, découvrir tout. Donc c'est sûr qu'à terme j'aurais sûrement coaché des femmes. Est-ce que le parcours aurait été le même? Je sais pas, mais j'étais content de l'avoir fait.
T'as passé 5 ans à l'académie?
Au club, 5 ans. À l'académie, peut-être près de 3 ans, mais j'ai commencé aux écoles de soccer. Et c'est là que j'ai appris vraiment le côté animation, puis à quel point c'est important de donner du plaisir, puis
Puis
donner des
l'énergie que
émotions,
t'apportes.
l'énergie que t'apportes. Après la pré-académie, après ça, tant qu'à être là, ben, aller cogner sur la porte, à la porte de Philippe et dire, hey, vous n'avez pas d'adjoint là, à vos équipes, vous en avez 22 à
Quand
gérer.
Philippe Lafroy, qui était directeur de l'académie.
Directeur de l'académie avec mon ami Esteban qui est maintenant au Mexique,
Ouais. Puis
Esteban Landazabal.
ça c'était en 2016.
Ça, c'était, ouais, je pense que... Pff,
Ben, là où je vais en venir, c'est Jason DiTullio, Wilfried Nancy, Yannick Girard, ils étaient tous passés avec Mauro Biello à ce moment-là.
Ouais, exactement. C'était là
C'était
et
le temps d'aller cogner à la porte de Philippe, là. Je veux
ouais.
dire, il avait besoin d'aide un peu à ce moment-là avec la perte de tous ces coachs-là.
Ouais,
Mais la
puis
perte, entre guillemets, là, qui était passée avec les pros.
oui, puis Serge pas très longtemps après avait Serge aussi,
Qui est parti
Serge
à Portland.
Dinkota qui part à Portland qui est un très bon ami aujourd'hui que c'était le premier que j'avais en fait, c'était ça. Au début, je suis allé voir Philippe en disant je suis là. Est-ce que je peux être en observation? Comme je suis curieux et ça, c'était pas en espérant que. Non, je voulais juste
T'étais
apprendre.
sincère.
J'étais vraiment sincère et ben, il m'a envoyé avec Serge. Et ça, là, je comprenais rien au début, puis je trouvais ça vraiment top niveau ce qu'il faisait. Donc on a connecté, il m'a annoncé qu'il partait. Et après ça, continue mon travail à la pré-académie et c'est dans un deuxième temps que. Je dis, mais tu sais, là, tant qu'à être là, si jamais vous avez besoin d'adjoint, puis la première chose que Philippe m'a dit, c'est on n'a pas d'argent pour ça. Il dit, ben, ok, c'est pas grave. Puis au bout de 6 mois, il nous a débloqué quelque chose. Mais c'est l'apprentissage, c'est la période où j'ai le plus appris et je le referai n'importe quand.
Qu'est-ce qui t'a marqué?
Beaucoup de choses, mais de l'environnement que Philippe a mis en place, je dirais que c'est l'exigence. L'exigence du haut niveau et. Là, j'ai vraiment compris à quel point on est constamment, constamment en train de se remettre en question. Tout ce qu'on. Tu sais, des discussions avec Antoine, qui est avec les
Gulnar,
Roses
hein?
aujourd'hui, que pour moi, il est.
Préparateur
Et
mental.
puis, il est clé dans l'aventure, mais je le prendrai n'importe quand, dans n'importe quelle équipe, c'est un difference maker. Tout ce qu'on dit compte, tout ce qu'on fait compte. toujours avoir un temps d'avance, toujours être à la recherche. Et j'ai appris de Philippe que il faut être un excellent préparateur mental, coach tactique, connecté avec les jeunes, tout. Les pédagogies, les situations, la structure, comment voir le foot, puis de juste jamais, tu sais ce que, de jamais juste se dire, ok, je suis bon, ok, c'est bon, je suis rendu. Non, constamment
Je peux
se remettre,
surfer pendant 3 semaines.
constamment se remettre en question, puis voir ce côté-là, et après, à travers mes autres expériences, et notamment travailler avec Jay, avec Jason DiTullio, qui est devenu un très bon ami après aussi en dehors du terrain. Et malheureusement, on connaît la suite, mais apprendre aussi avec Jason que oui, on travaille fort, mais on peut aussi s'éclater, prendre du plaisir.
Ah,
Et
Jason, c'était les deux
c'était.
pôles. C'était le fun, puis tu sais, blow off some steam,
C'est
mais
ça.
en même temps travailler ultra fort, puis vouloir gagner. Puis je pense que c'est un des trucs sous-estimés un peu à l'académie, parce que je serais curieux de savoir d'ailleurs comment toi tu l'as vécu. Moi, quand j'étais là au départ, il y avait une culture à laquelle moi j'adhère beaucoup, beaucoup, c'est le processus. Concentre-toi davantage sur comment on fait les choses, ce qu'on développe, les aptitudes qu'on va développer chez les joueurs, puis les résultats, pas qu'on s'en balance, mais pas loin. Puis Jason a vraiment challengé cette idée-là à l'académie. Je serais curieux de savoir c'en était où quand toi t'as passé quelques années là, parce que Jason a apporté le oui, mais ça peut être les deux en même temps. Puis quand tu arrives au plus haut niveau, puis je pense que son passage avec les pros, surtout avec Mauro, mais on forme ces gars-là au final, pas pour aller participer au tournoi de Brassard, c'est pour aller gagner le championnat canadien, pour aller battre des adversaires chez eux, faire les séries éliminatoires. Comment ça coexistait, ça, à l'époque où tu étais là?
Ouais, c'était. C'est sûr que. Ben, j'ai une anecdote, je pense qu'il va. On est dans un tournoi en Floride, je pense que c'était la DA Cup à l'époque, et on joue un match. Philippe, il vient nous voir, puis il nous dit là, les 19 se sont qualifiés. Faut que les 17 se qualifient, mais c'était aussi sa façon de nous mettre une pression qui était qu'on aimait bien. Donc, avec Jay, on fait le match, on gagne, on est en train de gagner. Jay, on passe en 5-1, on défend
Ferme la
et
chope.
on voit Philippe sur le côté qui fume, là, qui aime pas ça, tu sais, toujours à la recherche du prochain but, puis une philosophie où on change pas qui on est, mais.
Ah, puis Philippe, c'est un gars qui aime le risque aussi, là, tu sais,
Ouais,
qui aime
exactement.
rester fidèle à ses trucs, mais quand il y a une opportunité, il aime rouler les dés, là. Jay, c'était plus. Ben, Jay aimait ça aussi, une petite game de poker une fois de
C'est
temps en temps,
ça.
mais ferme la chope à l'italienne, puis on est qualifié, ça fait la job.
Ouais, puis mais ça a quand même pas passé.
Non?
Non, ben non, Philippe était pas content, et avec raison. Donc c'était comment trouver ce juste milieu, à quel moment on ferme, à quel moment on apprend à des jeunes footballeurs de fermer un match, à quel, est-ce que c'est à 17, est-ce que c'est à 19. Puis ça, c'est, je pense qu'il n'y a pas une science exact. Je pense qu'il y a des moments où puis justement, Derrida Zouir, Nathan Saliba étaient dans cette équipe-là, et c'était déjà des gagnants, là. C'était déjà, et puis je pense qu'il faut encourager ça. Mais après, on n'a pas un contrôle sur, puis surtout du banc. Moi, c'est ce que je dis aussi au staff aujourd'hui, là. C'est, on veut gagner, là. L'adversaire aussi veut gagner. Mais à la 80e minute, on ne peut pas rentrer pour faire la différence. Donc,
Tu veux
c'est
dire
pas,
comme coach?
oui, on ne peut pas aller marquer un but. Donc là, il faut vraiment qu'on soit en mode solution constamment, et le match va tellement vite. Est-ce qu'on voit tout? Est-ce qu'on est capable de planifier d'avance, mais de surtout s'ajuster sur le moment pour changer, tweaker le truc qui peut nous faire performer pour gagner le match? Parce que tout le monde veut gagner le match. Ça, pour moi, ça, c'est
C'est la
oui,
base.
oui, mais c'est sûr. Tu me sors un jeu d'échecs, je vais vouloir te battre. C'est le compétiteur en moi. Ça, il faut gagner. Non, on veut gagner. On veut gagner, mais après, plus tu te concentres, je pense, et c'est ça aussi que l'académie m'a appris, plus tu te concentres sur vouloir gagner, plus tu risques de te sortir du processus. Et après, qu'est-ce que tu contrôles? Par exemple, l'effort, tu le contrôles. L'effort, si tu le fais bien, si tu le fais de manière constante, si tu es un effort physique, oui, pour réagir à la perte, par exemple, du ballon, mais un effort mental pour défendre à la 89e sur coup de pied arrêté, ça, tu le contrôles. L'effort mental, l'effort physique. Et si ça, tu le maîtrises du mieux que tu peux et que même si l'adversaire a aussi l'effort, mais que toi, tu pousses, tu pousses, tu pousses et que tu le contrôles, tu as plus de chances de gagner. Après, même si ton effort est là et que tout est beau et que tout est parfait, le ballon frappe le poteau. Parfois, ça rentre, parfois, ça sort. Dans le CF Montréal, en début d'année, le ballon a frappé le poteau une couple de fois. C'est peut-être pas, on n'est peut-être pas à la même image aujourd'hui si ce ballon il rentre dans le but. Donc, je pense vraiment qu'il faut arriver à se détacher de ça.
Avant de te ramener sur les roses, qu'est-ce qui a changé par la suite? Parce que je sais que toi, tu as senti une évolution. Il y a eu la pandémie, il y a eu le rebrand, il y a eu des coupures, évidemment, parce que la pandémie a apporté un moment difficile pour toutes les entreprises, encore plus une entreprise sportive canadienne qui avait les déplacements, j'allais dire déplacements, les relocalisations temporaires, là, mais c'était quand même ça pour la première équipe. Qu'est-ce qui a été perdu dans cette période-là? Puis je lance la pierre à personne, là. Mais j'ai l'impression, moi, ce que je dis souvent, puis j'en ai parlé avec Fred à quelques reprises, l'académie de l'époque, l'académie qui a produit Nathan Saliba, c'est pas l'académie qui est là en ce moment. Puis ça veut pas dire que l'académie qui est là en ce moment va pas produire des joueurs extraordinaires, mais il y a comme quelque chose qui s'est évaporé. J'ai la misère, moi, à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui s'est envolé dans cette période-là?
Je pense que c'est difficile pour moi à dire parce qu'aujourd'hui, les quelques contacts que j'ai avec les gens de l'académie, ben, tu sais, ils sont positifs. Puis moi, j'aime pas être dans le jugement, de regarder ce qui se fait comparé à avant. C'est complètement différent. Le sentiment que j'ai, c'est que ça travaille bien, mais je pourrais pas t'en dire plus aujourd'hui. Au moment où moi, j'ai décidé que c'était le temps de passer à autre chose, j'étais aussi très fatigué. Puis honnêtement, on enchaîne là. Mais tu sais, c'est quoi?
À l'académie.
Donc, on enchaîne. Et que ce soit les voyages, tu n'as jamais de jour off. Puis moi, je le prendrais beaucoup là. Parce que encore une fois, je l'aurais fait de A à Z encore aujourd'hui. Parce que rentrer à 7h, 8h, préparer la journée de l'académie, finir après, embarquer sur la pré-académie, finir à 9h. Puis honnêtement, c'était difficile. Mais c'était du bonheur. Mais au bout d'un
Mais
moment.
tu gagnais quand même un demi-million pour ça.
Je faisais tout ça en étant à temps partiel, je vais le mentionner parce que je pense que c'est quelque chose qui. Puis y a pas de problème, j'étais conscient de ce que je faisais, c'était un
Ça t'a
choix
amené là
aussi.
où t'es aujourd'hui.
Exactement, et je le referais. Et il y a plein de monde encore aujourd'hui qui font ça et il n'y a aucun problème. C'est le monde du foot, puis j'espère qu'un jour le métier d'entraîneur va vraiment être un vrai métier. Mais moi, tout ce que j'ai appris à ce moment-là, ça n'a pas de prix là. Donc moi, tu me demandes de le refaire, je ne veux même pas être à temps plein, temps partiel avec l'apprentissage, ça me va. C'est sûr que tu es un peu comme une courbe d'apprentissage. Au bout d'un moment, tu as envie de découvrir autre chose, tu as envie de voir autre chose. Et c'était, je m'en rappelle, Nicolas Gagnon,
Gagnant.
il m'avait dit, mais tu vas sortir d'ici, tu vas frapper un mur, tu vas aller où? Et j'avais envie de quelque chose d'autre. Donc,
Dis le gars qui s'est ramassé à Southampton en Premier League, tu
exactement. Donc,
sais.
je suis très content pour lui. J'espère qu'il va rester là-bas et je le salue. Mais j'ai, ouais, j'ai, j'ai, je sais pas qu'est-ce qui a changé après. Est-ce que c'est l'exigence? Perdre Philippe, on perd quand même une certaine exigence par rapport à. Tu sais, Philippe,
Un
il
savoir de
était.
décennies aussi,
Oui,
là, qui vient avec.
exactement. Donc, est-ce que c'est peut-être un peu d'exigence? Peut-être un peu. Je pense aussi qu'il y avait une remise en question dans le club de manière at large, d'où le rebrand. Mais c'est drôle parce que je pense que si le club avait la vision d'aujourd'hui. À l'époque, puis je dis pas que la vision n'était pas bonne, la vision était super. Il y avait des super joueurs qui étaient là, il y en a encore aujourd'hui, mais il y avait des Drogba, des Piatti, etc. Mais que si les jeunes avaient été mis de l'avant,
En 2014, 15,
ouais, je
16.
pense vraiment que ça aurait fait encore plus un grand impact. Mais je pense quand même que on poussait beaucoup pour les jeunes, puis que les jeunes étaient quand même considérés. Mais c'est sûr que d'un point de vue structurel, quand un jeune arrive et qu'il doit dépasser Drogba, ou se battre pour faire sa place contre Piatti, ben c'est différent. Je pense que c'est encore difficile aujourd'hui, mais je pense qu'elle l'était encore plus à l'époque. Donc c'est intéressant de voir où le club est rendu aujourd'hui. Et même si je suis parti à ce moment-là, je suis resté fan et je le suis encore de très près.
T'es début trentaine, t'es entraîneur-chef, j'allais dire t'es le visage. Tu vas devenir un des visages très importants du soccer à Montréal. Je pense que c'est encore un peu sous le radar. Là, on enregistre, vous êtes à une dizaine de journées, une dizaine de jours de votre coup d'envoi à Toronto. T'es le leader. En même temps, tu es un leader qui a comme directrice sportive une légende du foot mondial, celle qui a été pendant longtemps meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Comme consultant, Nick DeSantis, pas besoin de. Avec, je te dirai pas tous les titres qu'il y a eu. Même lui, Nick, assis où tu étais, où tu es en ce moment, il y a quelques mois, se rappelle même pas de tous les titres qu'il a pris ou qu'il a porté au CF Montréal ou à l'Impact. Tu es Yannick Girard, qui a fait de la Coupe du Monde. Tu es Antoine Gulner. Qui a fait un travail secret, on va le dire comme ça, pour un titre de MLS Cup avec Wilfried Nancy. Il a travaillé à distance, puis c'est un gars qui a fait un travail extraordinaire à l'Académie et avec la première équipe de l'Impact ou du CF Montréal avec Nancy. Comment t'assois ton autorité dans tout ça? Parce qu'à quelque part, c'est toi le leader. C'est extraordinaire d'être entouré de ces gens-là, mais c'est des gens qui ont un énorme bagage. Comment on vit ça, ce positionnement-là comme coach?
C'est honnêtement, c'est que du bonheur parce que déjà en partant d'en haut, il y a Marinette, mais il y a aussi Annie, il y a aussi les propriétaires. Mais là, vraiment, en partant d'Annie, Marinette et tout le monde, c'est l'être humain avant tout et c'est les valeurs avant tout. Marinette, c'est la première qui va aller ramasser un but sur le terrain, c'est ça qu'il faut au moment présent. Donc, du moment que le stage, c'était comme ça, on va dire, c'est facile après de travailler et puis de juste s'attendre à ce que tout le monde fasse leur job, mais en plus de ça, avec des personnalités comme ceux que tu as mentionnés. Tu sais, je pense que la clé, puis il y a Maryse aussi dans le staff, il y a aussi Marco Torrens, puis il y a aussi...
Qui vient d'arriver.
Oui, puis là, il y a Christine, la thérapeute, il y a Mathilde au niveau des équipements, et il y a tellement de monde aussi dans Laurence, la team manager, il y a du monde. Et avec Marinette est très forte à choisir les bonnes personnes en termes de... s'entourer de personnes qui sont adjoints à Adrien, de personnalités, de bonnes personnalités, des bonnes personnes qui ont envie de travailler. Donc ça, déjà, il y a cet environnement-là en place qui, pour moi, me permet de vraiment m'exprimer et faciliter ça. Après, moi, je crois beaucoup, j'appelle ça une des premières rencontres que j'ai avec le staff, si je leur ai dit, moi, je crois dans le management horizontal. Pour moi, vous êtes tous et toutes coachs. Et que ce soit une ou l'autre qui va avoir une joueuse, la joueuse doit ressentir que c'est le coaching staff qui vient l'avoir. Mais après, on a des expertises. Donc, Yannick au niveau physique, Antoine au niveau culture de performance mentale, Maryse au niveau de l'analyse de performance, au niveau des gardiennes de but, des coups de pied arrêtés. Avec l'expertise qu'on a, on a des tâches et des rôles qui sont concrets. Moi, par exemple, c'est de prendre des décisions. Donc, et ça, c'est facile en théorie, c'est pas donné. Parce que quand on est dans un management horizontal où tout le monde est à l'écoute, tout le monde contribue, moi je leur ai dit voici quelques aspects que pour moi c'est des non négociables au projet de jeu, mais en voici d'autres où on peut décider ensemble. Mais ça crée des débats, ça crée des discussions animées, c'est pas facile à gérer. Et je pense qu'au bon moment, et ça je prends aussi Marinette comme mentor pour me montrer, elle est tellement juste. Au bon moment, asseoir l'autorité, au bon moment, écouter. Et j'espère que ceux et celles qui sont là comprennent qu'on a besoin de ce buy-in pour avoir du succès, de l'écoute, de participer. Et quand la personne qui est en face connaît bien son rôle et a la bonne personnalité, le bon caractère et l'humilité pour l'accepter, ça donne une formule gagnante, je pense. Et on va voir ce que ça va donner à court, moyen, long terme, mais je suis content de comment la dynamique elle est faite. En gros, je donne un exemple concret. Je vais pas m'embarquer dans les trucs physiques de Yannick là. C'est lui l'expert. Je lui fais confiance. Et même s'il a vécu avec John Elman ou avec d'autres coachs qui ont plus d'expérience que moi, au moment où je lui dis voilà dans quoi moi je crois et comment je veux qu'on essaie les choses, mais il accepte aussi. Et donc ça, c'est pas juste moi. C'est la personne qui est en face aussi qui contribue à ce que cette vision prenne vie.
C'est intéressant ça. T'es passé à Soccer Québec comme coordonnateur technique?
Ouais, coordonnateur, j'ai aidé les clubs, puis coach des U15 aux équipes du Québec.
Ouais, mais c'est le côté coordination qui est... Coordination? C'est un coordonnateur?
Coordonateur au développement, c'était
le titre. Qui fait de la coordination, je suis toujours dans une direction. En tout cas, bref, ma question n'avait rien à voir avec l'orthographe de ce mot-là. Est-ce que ça t'a donné, cette job-là, une meilleure appréciation pour le rôle d'une directrice sportive? Tu sais, sachant que quand t'es coach, t'as les deux mains dedans, t'es dans la prochaine séance d'entraînement, qui est blessé. Puis là, quand tu es directeur sportif, directrice sportive, tu as une voix beaucoup plus, une vue beaucoup plus 35 000 pieds. Est-ce que ça te permet d'apprécier davantage ce qui est important pour Marinette, puis être capable de se mettre dans ses souliers ou dans les souliers l'un de l'autre?
Peut-être inconsciemment, mais là que tu me poses la question,
Mais tu n'avais jamais fait
non,
le...
j'avais pas fait de lien, mais je pense que toutes les expériences que j'ai eues m'ont aidé et continuent de m'aider aujourd'hui à continuer de me former, parce que moi je crois beaucoup à ça, on continue, c'est ce que je dis aussi aux joueuses. Mais Charlotte, qui a 34 ans, bientôt 35, elle continue d'apprendre quelque chose de différent, elle se forme en tant qu'être humain, et ça, je pense que y a juste une fin.
Il y a eu, vous aviez pas foulé le terrain, en fait, vous avez toujours pas foulé le terrain pour un match de compétition, mais vous avez déjà vécu de l'adversité, de la tourmente, un peu avec Latif Abdou qui a vécu des problèmes de racisme, de sexisme sur les médias sociaux. Qu'est-ce que ça t'a appris sur l'univers du monde pro dont toi t'es responsable? Et qu'est-ce que tu penses que ça a appris à ton club? Qu'est-ce que ça vous a fait vivre qui va peut-être vous aider à quelque part à lancer votre première saison chez les Roses?
Ben, je vais donner un exemple parallèle, mais terrain. On a le ballon, on est en train de construire l'attaque, on veut un jeu court, on veut OK, mais on est en train de construire l'attaque. Et on perd le ballon. Et là, oui, on veut réagir, mais est-ce qu'on peut le prévenir? Là, je pense que une équipe qui a une bonne prévention, couverture préventive, le terme, et qui est capable de. Parce que tu vas faire des erreurs. Tu vas, et puis là, c'est pas une erreur, mais c'est une situation. Il va y avoir des situations où l'adversaire récupère le ballon, où tu es en difficulté. Mais est-ce que tu peux le prévenir d'une façon où est-ce que la réaction te permet de t'en sortir et de continuer vers l'objectif que tu as? Et je pense que la réaction suite à la Tifa et à ce qui s'est passé a été très forte, très solidaire, le club tout de suite. Et puis ça nous permet après de mettre. Là, on travaille pour mettre en place des choses qui pour nous aider du mieux possible à ce que quand ça arrive, on soit encore plus prêt, encore plus forte.
Tu parlais de certaines joueuses qui sont près de la mi-trentaine. Tu sais, toi, tu as un gros écart aussi à gérer. Tu as des filles qui sont pros depuis des années, qui arrivent d'outre-mer. Tu en as d'autres qui sont ici, qui débarquent chez les professionnels, qui vont avoir le spotlight sur elles. Je présume que tu sais pas comment tout le monde va réagir. Tu commences à avoir un bel échantillon, là, parce que ça fait combien de semaines que vous avez commencé? 6?
8.
8. Comment on gère ça? Parce que tu peux pas tout prévenir non plus. À quelque part, faut que tu en garoches dans le bain juste pour voir est-ce qu'on va se noyer un peu, on va avoir besoin d'envoyer le sauveteur, une bouée, ou est-ce qu'au contraire, tout le monde va nager puis survivre là-dedans?
Ouais, honnêtement, c'est difficile parce que même celles qui ont connu le monde pro, il n'y a personne dans le groupe qui a connu une nouvelle équipe.
Une saison d'expansion, une année
Ouais,
d'expansion.
exactement. Donc, par exemple, je demandais à Tania Botchuk, qui s'exprime beaucoup et qui est très. Qui prend de la place, et c'est bien, dans le bon sens du terme. Mais tu étais comment, toi, quand tu es arrivé pour ta première expérience chez les pros? Elle a dit, ben, j'étais entouré de pros, donc j'avais pas le choix. Mais là, on n'est pas entouré, on est entouré de nouvelles pros. Et là, c'est magnifique parce que toutes ces filles-là qui ont déjà vécu ça, c'est une opportunité pour elles de prendre du leadership. Et je pense qu'on leur met la table aussi pour pouvoir le faire et contribuer au succès au-delà du succès, à la fondation qu'on met en place pour ce qu'on espère le long, très long terme et le succès de l'équipe. Donc, honnêtement, c'est beau à voir parce que ça passe par beaucoup de détails, l'éducation de quoi faire avant. Tu sais, il y a des joueuses que c'était, je vais m'entraîner, je rentre chez moi, puis. Mais là, c'est toute la préactivation, l'activation, le recovery, comment tu récupères, comment tu prends soin de ton corps. Oui, parfois on mange au centre, mais il y a aussi des moments où elles mangent chez elles. Donc, comment on gère tout ça? Et pour le moment, je suis très content des filles parce qu'elles participent énormément à ça.
As-tu senti que les installations, parce que ne serait-ce que visuellement, c'est exceptionnel, là, le brand des roses était beau, j'étais là au lancement à l'automne dernier, mais tout ce que vous semblez faire, ou ce que l'organisation semble faire, je présume que tu n'es pas en charge de la peinture ou du papier peint sur les murs du vestiaire ou de la cantine, mais ça envoie quand même un message. Tu es chez les pros, on va bien t'encadrer, mais toi, en retour, il faut que tu te comportes adéquatement aussi. Sens-tu que cet environnement-là, à Bois-de-Boulogne, où vous êtes installé avec votre chez vous, qui va être votre stade aussi, en plus de votre centre d'entraînement, le sens-tu que ça envoie un message?
C'est extraordinaire. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça et je pense que personne ne s'y attendait jusqu'à temps qu'on le voit. Parce que même quand on voyait des vidéos 3D, puis on disait, ouais, waouh, ok, ça va être beau, mais
C'est beau sur une maquette, là,
c'est
mais.
ça. Et non, on était vraiment impressionnés et ça donne juste le goût de tout donner à chaque jour. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois aux filles avant le dernier match amical, c'est tout ce que vous avez, tout ce qu'on demande en retour, c'est l'effort. L'effort, c'est le sentiment d'avoir tout donné et le reste, on va être travaillé.
Deux dernières en terminant, Robert. Il y a deux choses qui se sont, deux voies qui se sont tracées au fil des ans. Dans un premier temps, c'était partir étudier aux États-Unis. Ensuite, c'est devenu ben, peut-être signer directement professionnel. Là, au Québec, tu as l'option de faire les deux. Tu peux techniquement étudier et travailler, jouer pro chez vous avec les Roses de Montréal. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que vous, parce que tu as quand même un régime d'entraînement que tu ne peux pas ajuster à un horaire scolaire de toutes les filles, mais s'il y a des filles qui viennent vous voir puis qui disent, ben moi, j'aimerais ça faire un diplôme universitaire ou j'aimerais ça faire un MBA, est-ce que vous travaillez là-dessus pour faire en sorte que les joueuses aient pas l'argument de dire, ben moi, je peux avoir mes études payées aux États-Unis?
Oui, 100%. Il y a des joueuses qu'on a qui sont encore aux études. C'est sûr qu'au moment où tu décides de jouer pro, déjà on accepte. On est en contact avec des joueuses, des top potentiels qui ont décidé d'aller aux États-Unis et qui font leur parcours là-bas, qui est un super parcours scolaire, mais aussi une magnifique expérience humaine. Puis on continue de les suivre, puis on les invitera peut-être à s'entraîner de temps en temps, puis on créera un lien avec elles.
Surtout que c'est l'an 1, t'sais, on peut comprendre qu'il y ait
Exactement.
des points d'interrogation pour les joueuses. À l'an
Bien
5,
sûr.
peut-être que vous avez plus de levier.
Oui, bien sûr, mais il y en a aussi qui ont décidé d'embarquer, de se jeter, puis de continuer en même temps, qui n'avaient pas fini leur bac ou qui continuent d'étudier à Montréal. Et on est derrière elle, donc c'est déjà arrivé qu'une joueuse, ben, elle a un examen, puis on l'accommode pour l'entraînement. Mais le foot devient prioritaire dans sa vie. Et ça, elle doit aussi le comprendre, que ça passe par beaucoup d'organisation, mais une joueuse pro a quand même du temps l'après-midi pour faire ses devoirs, puis bien récupérer.
J'ai comme l'impression qu'il y a un message qui est lancé à travers tout ça. On va faire ça. Jacob, tu prendras ça comme clip Instagram ou juste comme clip pour envoyer à Robert dans son téléphone. Il pourra flipper ça aux filles qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leur devoir. En terminant, les gens qui vont se déplacer pour voir les Roses à Bois-de-Boulogne, est-ce que le stade a été nommé? Là, tu le sais peut-être,
Pas
puis
encore, non,
non?
je le sais pas.
OK, fait qu'éventuellement, on va appeler ça au stade Fill the Blank. Ils vont vivre quoi? Ils vont voir quoi? Parce que je parlais d'incertitude. On ne sait pas à quoi le niveau va avoir l'air. On ne sait pas à quel point la sauce va prendre rapidement ou un peu plus tard dans le cas de ton équipe. Mais une certitude que tu as sur ce que les gens vont aller vivre là-bas, ce serait quoi?
Des émotions, et j'espère des émotions positives.
Positif.
Non, des émotions, j'ai vraiment envie que, et on a envie en tant que club, mais surtout moi aussi personnellement en tant que coach, et je le dis souvent aux filles, les femmes sont capables de jouer au football. Et c'est ça le message que j'aimerais que le style qu'on va avoir, l'identité qu'on va avoir sur le terrain, qui, pour être honnête, risque de prendre du temps, et on prend ce risque-là de chercher à mettre quelque chose en place qui fait du sens, qui est cohérent et qui marche surtout à moyen terme, qu'au début ça va prendre un peu de patience, beaucoup de résilience de nos joueuses et énormément de courage, mais qu'au terme on va passer des messages, je pense, de société et pour montrer que le foot féminin il vaut vraiment la peine d'être regardé, que les femmes savent jouer et que les femmes, et j'ai la chair de poule en te parlant, mais qu'elles peuvent vraiment transmettre des émotions positives à travers ce jeu.
Je suis très heureux de ne pas avoir d'autres questions à te poser parce qu'il y aurait eu un anticlimax monumental pour t'en poser une autre après ça. Super intéressant, Robert. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que ton horaire est très, très chargé. Vous avez un match préparatoire demain matin. Vous avez un coup d'envoi de la saison inaugurale de Super Ligue du Nord dans une dizaine de jours à Toronto. Je pense que je parle au nom d'à peu près tous les auditeurs d'Au fond des filets. On vous souhaite une victoire à Toronto. Ça, c'est pas mal la base pour une équipe montréalaise. Merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup, puis j'en profite juste pour te remercier aussi de tout ce que tu fais, puis ça part du loin de s'en foutre, puis je te suis personnellement depuis longtemps, que ce soit toi, avec Frédéric, avec Sidney Faux, puis honnêtement, du monde aussi que vous avez ici et tout le monde derrière, mais je pense que ta contribution pour continuer à mettre le foot de l'avant de manière générale à Montréal, dans la province, c'est exactement ce qu'on a besoin. Et puis, encore une fois, je te suis depuis longtemps, puis je prends toujours plaisir à t'écouter, surtout sur la route, parce que c'est pas mal le seul moment que, entre deux appels de gérer des trucs, que j'ai du temps pour t'écouter. Puis pour moi, c'était le premier podcast que je fais, donc j'étais très content de le faire avec toi. Puis j'en profite aussi pour saluer la famille, parce qu'ils m'ont obligé là de les mentionner. Donc Jessica, ma femme, Valentina, Fabi et Gio,
Ben, j'allais
les
justement
petits.
dire,
Donc.
comment on dit à la prochaine en roumain? Comment tu dirais au revoir ou...
La revedere.
Bon, ça.
Merci
Merci.
à toi.
Ouais.